Il est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Jadis, on disait il y a plus de saison, aujourd'hui on défile pour que la trottinette remplace la voiture et le vélo, les camions. Merci d'être avec nous.
Par le soleil et la sécheresse. Je reviens du monde d'avant.
Imaginez le monde d'après.
Journal de bord d'un monde qui fond.
The whole place is burning.
Buggering up the world, starting with us.
On est en train d'enterrer le monde en commençant par nous. Et Glenn dit, on va contre-attaquer et on va jamais s'arrêter.
Tout est politique.
Épisode 18.
L'écologie post-politique, je n'y crois pas.
Et maintenant, on fait quoi ?
D'un monde à l'autre.
Vivant-il ? Sur France Inter.
Avec ceux qui refusent de se laisser couler.
Reportage sur les traces du changement climatique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de notre tour du monde d'avant. Alors que beaucoup nous promettent du rêve pour le monde d'après, tout en continuant d'appuyer sur l'accélérateur, je vous propose de poser les valises et de nous arrêter un instant sur notre présent pour essayer de réfléchir à ce qui nous arrive. Après les glaciers d'Islande qui fondent au soleil, après les forêts d'Amazonie qui s'atrophient, les méga-feux d'Australie et les campagnes irradiées du Japon, 17 heures de reportage que vous pouvez retrouver en podcast, soit dit en passant, nous voilà enfin revenus à la maison de la radio pour une dernière étape avec le philosophe Pierre Charbonnier, qui a publié en janvier dernier « Abondance et liberté » aux éditions La Découverte, pour se demander avec lui comment on en est arrivé là. Et si vous avez pu suivre notre voyage, vous avez sans doute entendu combien nous sommes nombreux à nous poser ce genre de questions. De cette grand-mère japonaise revenue vivre dans un paysage contaminé à 10 km de Fukushima, qui fait écho à cet autre philosophe que l'on a croisé dans l'Australie en cendres, Glenn Albrecht, qui a forgé un mot, la solastalgie, pour décrire le manque que l'on ressent justement quand votre paysage et votre environnement ont disparu, dévorés par l'appétit des hommes. La même perte de tout réconfort de son monde d'avant, dont témoignaient les habitants rencontrés autour du village de Brumadinho au Brésil, où 12 millions de mètres cubes de boue toxique ont ravagé les vallées pour des dizaines d'années. Car l'accumulation des catastrophes environnementales commence sacrément à ressembler à un système où les mêmes causes produisent tôt ou tard les mêmes effets. Alors que nos économies carbonées sont toujours aussi dépendantes des énergies fossiles, nos sociétés courent toujours plus lourdement vers la croissance comme seul horizon possible. Mais Pierre Charbonnier, dans son histoire environnementale des idées politiques, nous l'explique. Le pacte entre démocratie et croissance, la promesse du progrès qui nous servit de carburant tout au long de la modernité, est aujourd'hui remise en question par le changement climatique et le bouleversement des équilibres écologiques. Alors jusqu'à 18h sur France Inter, je reviens du monde d'avant. Comment penser le présent avec Pierre Charbonnier? Et maintenant, on fait quoi?
Il y a très longtemps que j'ai la conviction que notre civilisation court à sa perte.
We're fucked. sur France Inter.
Pierre Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Je vous retrouve à l'ombre et dans l'herbe, ce qui est pas mal par ces temps de canicule. Pour parler de livre, c'est Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques. Et c'est exactement le genre de préoccupation qui nous intéresse à l'issue de notre petit tour du monde d'avant qu'on a fait tout l'été, parce que vous y proposez une réflexion de fond, historique, philosophique et politique, sur ce qui nous arrive et comment on en est arrivé là.
On dit souvent « Ah, c'est nul, cette histoire que l'homme soit un être d'exception, en fait, il est qu'un vivant parmi les autres. » Ben non, l'homme, c'est un être d'exception parce que c'est le seul qui a complètement explosé sa niche écologique.
Aucune créature animale ne va scier la branche sur laquelle il est monté.
Voilà, c'est-à-dire que quand on est écolo, spontanément, on n'aime pas l'anthropocentrisme. On n'aime pas l'idée que l'homme est un être d'exception, parce qu'on veut le réinscrire dans le vivant, et même plus largement que dans le vivant.
Surtout qu'il y a toute une tradition philosophique qui disait comme maître et possesseur de la nature.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est Darwin en fait, contre Descartes, on peut dire. Sauf que, y compris en termes darwiniens, le fait d'exploser sa niche écologique, bah, c'est une singularité absolue de notre espèce. Et non seulement on a explosé la niche écologique, mais on l'a, si on en croit l'histoire que je raconte dans mon livre, on l'a fait pour, entre guillemets, de bonnes raisons. C'est-à-dire on l'a fait parce qu'on a essayé de s'émanciper. Seulement, on n'a pas réussi.
Gagner la liberté.
C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à s'émanciper de la domination sans coder la nature comme une contrainte extérieure, qu'il fallait en même temps donc repousser. C'est-à-dire qu'on n'a pas su s'émanciper des formes de domination politique sans se lancer dans cette conquête complètement folle des gains de productivité sur nous-mêmes, le travail, et sur la nature, l'exploitation. Mais donc voilà, c'est toujours la même tension. Et en fait, je crois qu'on ne peut pas dire oui, en fait, la conquête de l'autonomie, de la liberté, ça n'est que la petite monnaie du développement technoscientifique. Et puis, la thèse inverse, à mon avis, ne marche pas non plus. Celle qui consiste à dire c'est grâce à la liberté qu'on a acquis l'abondance.
Le progrès, quoi, en quelque sorte.
Bah, en fait, la doctrine standard du progrès, c'est ça. C'est la doctrine libérale qui dit une fois qu'on obtient des institutions politiques, scientifiques, en fait un univers civil pacifié, là, décollage économique, et c'est la chanson, la mélodie bonheur, en fait, hein, qu'on commence à écrire. Voilà, donc pourquoi cette histoire-là, nous en sommes encore d'une certaine manière prisonniers, et pourquoi, plutôt que laisser tomber les libertés politiques avec la perspective en fait d'un effondrement écologique, essayer de se donner la possibilité de réinventer ce qu'on entend par liberté sociale, liberté politique, ou comme on dit en philosophie plus techniquement autonomie, dans un contexte en fait où on ne peut plus s'appuyer de la même manière qu'auparavant sur la grande dynamique d'extraction, d'accumulation.
Alors des inventeurs s'employèrent à créer de nouveaux outils, de meilleures machines, pour affranchir l'homme des limites imposées par sa force et sa résistance physique. C'était le but des découvertes et des recherches de Watt, Bessemer, Stevenson et bien d'autres. Les portes de l'abondance sont ouvertes.
Il y a d'abord l'homme suivi de ses machines, un nouveau compagnon qui rend la vie plus facile, un ouvrier sans nom qui vaut bien 10 imbéciles, qui ne pensent qu'à leur congé et nourrir leur famille. Ils sont pourtant plus utiles quand ils dansent en cadence au rythme des machines qui produisent en abondance.
Mr. Speaker, this is coal. Don't be afraid. Don't be scared.
The treasurer knows the rule on crops.
It's coal. It was dug up.
L'extractivisme, autrement dit, l'intensification de l'exploitation massive de la nature.
Voilà, c'est de ça dont on parle. C'est du minerai qu'on trouve ici, dans la montagne. Et dedans, il y a des éléments rares. Ça, c'est le minerai du futur.
Et Pierre Charbonnier, le modèle extractiviste et l'énergie a été vraiment le levier de toute l'expansion de notre modèle de développement et notre modèle de croissance. Et c'est celui-là même qui maintenant, qui est pointé du doigt par ses effets collatéraux, par sa pollution, par sa destruction.
Alors, ce qui est complètement déstabilisant mais important, c'est qu'en fait, c'est pas nouveau du tout. Au 19e siècle, on ne parle que de ça. C'est-à-dire que quand les Anglais commencent à développer une économie basée sur le charbon, tout le monde se plaint Ça pue, ça pollue, ça embrume, les gens décrassent des centimètres entiers de suie sur le pas de leur porte.
C'est ça votre monde moderne, on n'en veut pas, quoi. Il y avait beaucoup à l'époque de...
La contestation est immédiate. Stanley Jevons, en 1865, écrit un livre sur la question du charbon en disant « En fait, on vit de ça, mais on va aussi en mourir, parce que quand les veines vont s'épuiser, c'est-à-dire quand ça va devenir trop cher de les exploiter, qu'est-ce qu'on va faire de l'appareil productif ? On va pas pouvoir tenir notre empire, on va se faire complètement déborder, d'abord par les Américains, parce qu'ils ont plus de charbon que nous, ils le savaient déjà, c'était vrai, et on va s'effondrer. » Jevons, le bouquin de Jevons, c'est quasiment la préfiguration du Brexit. Enfin, c'est un truc, c'est hallucinant. Donc en fait, cette réflexivité-là, elle est inhérente au moment du décollage. Mais comme dit mon collègue Jean-Baptiste Fressoz, on est passé outre. C'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle la désinhibition. C'est-à-dire, on sait que, mais on y va quand même. On y va quand même pour une raison, d'ailleurs, que, à mon avis, lui, il sous-estime. C'est la promesse, en fait. C'est « demain, ce sera meilleur ». Et heureusement ou malheureusement, s'il y a bien un groupe social qui a cru à cette promesse, c'est ceux qui en ont été les premières victimes. C'est la classe ouvrière, en fait. Et Marx, c'est ça. C'est « il ne faut pas être loyal à l'égard des institutions juridiques et politiques du capitalisme. Par contre, il faut être loyal à l'égard de la promesse productive. » Donc il y avait cette réflexivité-là qui a été endormie et il faut bien le dire, en partie par le marxisme, qui n'est pas la moindre des contradictions de la modernité politique. Et de cet endormissement cyclique, quoi. On se réveillait, on se rendormait, on se réveillait, on se rendormait. Le grand moment d'endormissement, bon, bah, c'est effectivement l'après-guerre, hein, où là, il était devenu quasiment impossible de contester ce modèle-là parce que c'était antisocial. Et aujourd'hui, on nous dit, dans les milieux les plus autorisés, comme dirait l'autre, « Ah bon, vous voulez freiner, enfin rétrécir la voilure économique, énergétique ? Ah ben comment on paye les retraites et le modèle social ?» Donc ça, c'est l'instrumentalisation de la question sociale pour ne pas répondre à l'impératif écologique. Et je dis bien l'instrumentalisation, parce que les gens qui me disent ça, c'est les gens qui font le projet de loi de réforme des retraites, hein, les mêmes personnes, hein. Donc là, d'ailleurs, idée pour la gauche, il faut le dire ça. Il faut le dire que prendre prétexte du financement du modèle social pour ne pas s'attaquer à cette question-là, c'est à la fois inexact...
Voire criminel.
Voire criminel. Non mais criminel parce que inexact. En fait, une manipulation sur ce que ça veut dire faire de la justice sociale et même financer de la justice sociale.
C'est pour ça que vous dites avec d'autres... que le seul sursaut possible, c'est un combat pour justice sociale et environnementale. Et ça, j'y pense parce que quand on parle avec justement les Amérindiens d'Amazonie ou avec les Aborigènes d'Australie, la destruction de leur monde est une destruction de leur histoire et de leur identité.
Brésil, le champ de guerre des Ourous et Wawa.
Là, il est midi passé, donc dans cette clairière du village, le soleil cogne très fort. Et si je retourne autour de moi, je vois un filet de pêche planté là, un hamac, et il y a la télé dans la cabane en bois.
Bois toutou.
Bois toutou.
23.
23 ans. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que vous avez acheté le Wi-Fi. Du coup, c'est le premier jour où Internet arrive au village.
Ah, premier jour.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire là? C'est quoi le premier truc qu'on fait quand on a Internet pour la première fois?
Baixar o Google, o avanço das queimadas, essas coisas, né?
Regardez sur Google l'avancée des incendies.
Sobre l'invasion de terre, né?
Sur l'invasion des terres. Ah ouais, tout de suite. Moi, je pensais que vous alliez mettre à jour votre profil Facebook ou faire un compte WhatsApp. Ou... Mais non, c'est tout de suite en mode combat. Toujours en train de défendre ce qui vous reste de terre.
Ouais, isso mesmo.
Voilà, alors ça c'est un truc que raconte très bien Eduardo Villarroel de Castro, qui est un ethnologue brésilien, qui rappelle souvent ça, les Amérindiens, ça fait longtemps qu'ils l'ont perdu leur monde en fait, ça date de la colonisation, et ils sont en train de le reperdre en fait, sous l'effet conjoint des pressions foncières et du changement climatique. En fait, perdre son monde, c'est un truc malheureusement qui arrive fréquemment.
C'est vieux comme le monde.
Ouais, quasiment. Et donc on n'est pas les premiers à se poser cette question-là, très loin de là. Et c'est pour ça que je disais que c'est très important de décoloniser l'écologie pour comprendre quelque chose à ce qui nous arrive. D'ailleurs, parfois des collègues ou des contradicteurs qui sont des marxistes très orthodoxes me disent « Mais pourquoi tu parles tant que ça de la question coloniale, impériale ? En fait, on s'en fout, le problème c'est pas ça, le problème c'est l'exploitation du travailleur dans l'usine. » Bien sûr que c'est important. Seulement, franchement, en termes, si on veut peser le poids des choses, pour comprendre quelque chose à la crise climatique et écologique, la question coloniale est 10 fois plus importante que la question classiquement ouvrière. Ça crève les yeux, quoi. Parce que les grandes expérimentations, en fait, des plantations, des grandes prises de terre, du colonialisme, mais aussi du colonialisme interne, hein, des nations comme le Brésil, ou le Pérou, l'Équateur, etc., tous ces trucs-là, en fait, qui concernent les zones où se pratique l'économie extractiviste, hein, comme on dit parfois, bah c'est pas l'Europe, en fait. Alors là, on a fait les choses en grand, notamment dans les colonies sucrières, dans les grandes plantations, Caraïbes, Amérique du Sud, Amérique du Nord, etc., etc., où là, on change d'échelle, quoi. Et après, on refait la même sur le pétrole, aujourd'hui, terres rares, extraction minière, etc., etc. C'est une économie qui obéit à des logiques territoriales gigantesques, totalement désarticulées. Vous voyez, il y a eu récemment des manifestations en Allemagne contre Siemens. Parce que Siemens, donc entreprise allemande, avait obtenu un contrat pour faire la signalétique d'une ligne de chemin de fer qui devait relier une mine en Australie, au port en fait, où le charbon allait être exporté vers la Chine. Ouais. Vous comprenez pourquoi les luttes écologiques sont compliquées ? C'est parce que vous avez Siemens, vous avez la mine propriété d'une entreprise indienne. Donc un exploitant indien d'une mine australienne avec des équipements allemands pour une consommation en Chine. C'est sûr qu'au 19e siècle, quand les ouvriers et les patrons habitaient à 3 rues d'écart, c'était vachement plus facile d'aller sur les barricades et de dire, voyez là, le
salaud de patron,
c'est sous nos yeux. Bon, il y avait toujours de la sectorisation, enfin les riches habitaient pas au même endroit que les pauvres, bien sûr, mais c'était pas loin, on les voyait, on pouvait taper dessus, si je puis dire, directement, c'était disponible. Là, l'aborigène qui voit arriver une gigantesque infrastructure minière près de chez elle, qui sait pas d'où vient le fric. Comment voulez-vous que ça donne lieu au même type de lutte sociale que celles qui ont fait l'histoire de l'Europe au 19e, au 20e siècle ? C'est impossible. Donc faut du liant, faut de la communication, des collectifs évidemment secrets. Hein. Les gens ne restent jamais passifs devant la dépossession. Mais ce contre quoi ils se battent est gigantesque et malheureusement souvent hors de portée pour eux.
Et en plus, il y a la multiplication des fronts. Il y a ceux qui vont se battre pour l'eau, mais on dit, mais attendez, vous oubliez l'artificialisation des terres. Mais l'autre minute, attendez, la qualité de l'air, les particules, vous oubliez. Et puis, pendant ce temps-là, vous oubliez la radioactivité, les menaces sur les pollutions à long terme, et ainsi de suite.
Voilà, on est débordé de partout. C'est pour ça, d'ailleurs, que la série d'émissions que vous avez faites est importante. C'est-à-dire, faut cartographier, en fait. Faut suivre ce qui se passe, où ça se passe. Une grande carte du monde, et on met là, lutte pour l'eau, là, lutte sur une mine, là, lutte pour un élevage de crevettes dégueulasse en Équateur, comme ça. Mais là, on voit que ça explose, et il faut réussir à connecter ça, effectivement, aux grands flux de capitaux, aux grandes dynamiques de la conflictualité sociale. C'est pour ça que j'insiste en disant que tout ça, c'est un travail collectif. Hein. Nous, les philosophes, on est vraiment les derniers à intervenir en fait dans cette chaîne. Ça, c'est ce que disait déjà Hegel, c'est oui. La chouette de Minerve. En fait, on arrive une fois que c'est trop tard.
Après la bataille pour dire comment ça s'est passé.
On essaie d'arranger un peu les différentes pièces du puzzle, ou plutôt, comme j'aime bien dire, de tracer les lignes entre différents points qui ne sont pas numérotés. Donc on en est là.
Denied my application? I'm not a slave of your institution. You want a weapon of mass destruction? I'll give you a demonstration.
Je reviens du monde d'avant.
Never mind the term. It's a renegade breakdown. I don't want your advice on how to elaborate my speech. I have no interest
in your political agenda. Your intentions fluctuate like the stock market. Your masquerade is grotesque. Your style, overcalculated. I wonder how it feels for you to sit around all day. I'll tell it to your face, for once and for all. My life is anti-strategic. Lying between. Comic. And tragic.
Guy Vanctil, sur France Inter.
Cette émission, elle s'appelait « Je reviens du monde d'avant ». Justement parce que tout le monde s'est préoccupé ces dernières semaines et ces derniers mois, en disant « Il faut penser le monde d'après, plus rien ne sera comme avant ». Il y a un acronyme en anglais qui est « The world as we knew it », le monde tel qu'on le connaissait avant est fini et terminé. Mais simplement, j'aimerais justement un peu que faire appel à vos lumières pour sur comment on est arrivé là où on est, au sens où quel était le grand mouvement qui nous a amené à cette situation aujourd'hui, où les grands idéaux que vous avez dépeints ont pris un coup dans l'aile quand même, ces grands idéaux de progrès, de croissance continue.
Alors, est-ce que vraiment on peut déjà porter ce constat qui consisterait à dire l'idéologie du progrès est morte ?
C'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, elle a pris un peu de plomb dans l'aile, non ?
Peut-être. Déjà, bon, évidemment, il y a plusieurs manières de se représenter ce que peut être un progrès. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que probablement les grands défis, en fait, de cette immense révolution sociale, économique, scientifique qu'on doit faire pour non pas éviter, mais amoindrir le grand choc climatique et écologique, peut tout à fait se reconnaître en partie dans la logique du progrès. Ne serait-ce que de manière un peu opportuniste, c'est-à-dire, comme c'est notre horizon d'attente spontanée, peut-être qu'il vaut mieux l'occuper. Au lieu de dire, comme c'est le cas de certains, le progrès c'est fini, rétrécissons-nous pour survivre. Donc comment on fait plutôt pour ne pas rendre totalement contradictoire cette grande bascule avec des attentes de progrès qui quand même sont fortes, notamment chez les classes populaires qui ne sont pas libérées du besoin, quoi.
Oui, vous dites que la décroissance c'est un truc de CSP+, quoi.
L'écologie de manière générale, faut quand même regarder les choses en face. Les attentes vertes sont de manière extraordinairement dominante, portées par les classes moyennes supérieures, les gens comme moi, les gens qui ont des qualifications universitaires, plutôt urbaines, etc. Alors, ça bouge. On voit changer le lien entre les attentes de justice sociale et les attentes de justice écologique. Les gilets jaunes ont fait changer des choses à ce sujet. Il y a des liens aujourd'hui entre certains écologistes et des mouvements sociaux tout à fait récents. Donc, est-ce qu'il en ressortira une régénération de notre croyance au progrès ou non ? Je l'espère. En tout cas, il y a une chose qui me semble impossible quand même. C'est, en quelques années, de passer d'un discours dominant qui consiste à dire ce qu'on doit se partager, ce sont les fruits du progrès, la richesse, à ce qu'on doit se partager, c'est le fardeau climatique. On ne peut pas dire aux gens que tout ce qu'il y a en partage entre nous, c'est un fardeau ou des miettes. Si le projet, c'est de dire on va se partager les miettes de la croissance, franchement, c'est nul et je comprends que les gens n'y adhèrent pas, et surtout les classes populaires. Mais alors ça, malheureusement, on n'y est pas encore dans la reformulation d'une conception positive de quelque chose qu'on va mettre en partage, mais qui n'est pas la vieille abondance matérielle qui conduit au réchauffement climatique, aux grandes sécheresses, à l'appauvrissement de la biodiversité, à un truc néfaste pour tout le monde, et pour les plus pauvres, évidemment, en premier. Donc ce projet, il est en cours d'élaboration. Donc on voit les choses bouger, mais le problème, c'est que le changement climatique bouge plus vite que nous, en fait. Il bouge à une vitesse qui est terrifiante. Là, vous voyez, aujourd'hui, il fait 35, 36 degrés. Je me faisais la remarque ce matin, il y a 4-5 ans, je me serais dit que c'était fou, cette chaleur. Et là, on est, je pense, beaucoup de gens sont déjà en train de se dire, ouais, bon, il fait super chaud, mais comme chaque année, en fait.
Comme chaque année, où on bat les records de température quasi, en France, mais aussi au Groenland, mais aussi un peu partout dans le monde.
Les régions arctiques, c'est extraordinaire. Enfin, la vitesse à laquelle les choses changent.
Et là, c'est le paysage et donc la vie des gens qui changent aussi.
Et sont propulsés à l'avant-garde de ce que vont être nos vies bientôt. Hein,
c'est ça, ils sont en première loge.
Les avant-postes. Donc voilà, pour nous, les choses ne sont probablement pas aussi brutales.
Et puis je vous le disais, la calotte glaciaire risque bel et bien de disparaître à tout jamais. C'est même désormais une quasi-certitude pour les experts.
Les signaux ne sont pas bons.
Il ne faut pas se dire, bon bah finalement, tout est foutu. Si on perd le Groenland, c'est open bar, je ne vais faire aucun effort.
Il va falloir s'habituer, Maziza, à ces fortes chaleurs. C'est exceptionnel ou c'est une exceptionnalité qui va commencer à s'installer doucement?
C'est une exceptionnalité qui commence à devenir la règle.
Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que parmi les signes les plus graves, certains ne sont pas tellement visibles. L'eau, la disponibilité de l'eau, l'état des sols, combien de temps en fait, ils vont encore rendre possible une agriculture productive. Donc les mutations de cette fine pellicule vivante qui recouvre la Terre et dont nous sommes entièrement tributaires, qui est notre seul lieu de vie, passent en partie inaperçues. Elles sont trop rapides, elles ont complètement pris de vitesse le rythme de redéfinition des luttes sociales, en fait. C'est ça notre problème, enfin un de nos problèmes. Ce qui fait que, en fait, on aura besoin d'une partie des puissants. C'est-à-dire, on aura besoin que, par exemple, dans les banques centrales, dans différents corps d'État ou des corps supranationaux, des gens portant cravate et chaussures vernies se radicalisent. Des gens en fait qui ont accès au comité d'administration de Veolia, de Total, au Dexon, et disent en fait maintenant les gars c'est terminé.
De quoi je suis complice, c'est ça?
Bah bien sûr, mais évidemment. Donc alors je ne dis pas là non plus que c'est une faction d'élite technocratique radicalisée qui va nous sortir de l'ornière. Hein. Mais par contre, sans ça, honnêtement, je pense que c'est impossible. Et donc, c'est cette écologie-là qui a besoin d'institutionnalisation, d'intervention de l'État, peut-être de planification, de choses comme ça. Une espèce de relance verte de ce que Jean Monnet avait fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand il s'agissait de reconstruire. Parce qu'on peut le dire, hein, des collègues à moi utilisent cette expression, reconstruction écologique, je pense qu'elle est bonne. Hein. C'est de reconstruction qu'il s'agit. Vraiment une reconstruction de fond en comble.
Mais alors, vous parlez reconstruction au sens intellectuel, au sens conceptuel, ou c'est une reconstruction sur reconstruire un champ de ruines?
Ouais, bah c'est ça, c'est les deux en fait, forcément.
C'est l'un des sujets qui agite la planète en ce moment. Est-ce la fin du monde, la fin d'un monde?
C'est la fin du monde.
L'effondrement est-il imminent?
L'effondrement de notre civilisation.
Un effondrement, c'est ce qui se passe lorsque la population ne peut plus compter que sur elle-même pour subvenir à ses besoins de base.
On essaie d'être le plus près possible.
Une théorie développée par des chercheurs, des intellectuels et même la NASA.
C'est quand même un peu la meilleure chance de l'humanité aussi que ça arrive. C'est pas méchant, mais c'est juste
pardon
vrai.
Non mais j'aime pas les gens qui sont enfermés dans leur
non,
passé.
Mais c'est-à-dire
les gens qui sont enfermés dans leur futur me font encore plus.
Alors pourquoi vous dites que la fin du monde, c'est la meilleure chose qui peut arriver à l'humanité? Vous avez dit qu'elle allait vous faire flipper. Hein.
Pierre Charbonnier, les mises en garde que vous faites contre les déclinistes, contre les collapsologues, contre tous ceux qui nous disent tout est foutu, on est damné et on l'a bien cherché et ce qui nous arrive n'est qu'une vengeance de la mère nature.
Forcément, en fait, quand les circonstances sont aussi dramatiques, ça prête à toutes sortes de prophéties. On est tous désemparés, on est tous saisis par un truc qui ne nous est jamais arrivé. Donc il est légitime que comme ça ne nous est jamais arrivé, on n'est pas entraîné, on tourne dans tous les sens. Et un des sous-produits de ça, c'est la collapsologie. Alors comme toujours, c'est compliqué parce que on peut être tenté de dire « Attendez les gars, vous déconnez complètement, votre propos il est dépolitisant, votre propos il est en partie inexact sur les bases scientifiques, votre propos il suppose une catastrophe déjà acquise alors qu'il faut se battre pour qu'elle soit moindre, etc. » Et puis il y a toujours cette idée en fait que la grande catastrophe sera une purge et qu'au terme de cette purge, seuls les bons renaîtront. Et il se trouve qu'en fait les bons, c'est quelques bobos qui ont investi dans la terre, dans la Drôme et qu'on leur fait autosuffisante. Bonsoir, la lutte écologique, quoi. Bon, pas terrible. En attendant, ça exerce quand même une attraction pas négligeable sur pas mal de gens. J'entends souvent dans les bars des gens habillés en costard cravate avec des très belles chaussures parler de ça. Ça a l'air de faire stresser les banquiers de la collapsologie.
C'est comme vous savez, cette spéculation et foncière immobilière qu'il y a maintenant dans les îles de Nouvelle-Zélande, parce que justement, c'est les traders qui sont en train de se préparer
pour vivre, voire même survivre dans un monde qui devient de plus en plus chaotique.
Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend.
Ça, c'est carrément le survivalisme, ouais, c'est la version hardcore en fait de la collapsologie.
Pour survivre, il faut de la nourriture, de l'eau, un abri et du feu. Il y en a qui préfèrent construire un bunker ou encore se réfugier sur une île.
Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements.
En plein boom, le marché du survivalisme.
A shelter has many forms of protection.
One in ten people around the world believe that today is doomsday.
Épisode 18. Maintenant, on fait quoi ?
J'ai vu par exemple que François Ruffin avait beaucoup discuté avec Pablo Servigne. En fait, ouais, il y a une espèce de point de contact aussi entre l'anticapitalisme et la collapsologie. Alors que si vous lisez le bouquin de Pablo Servigne, ça n'a rien à voir avec les luttes sociales en fait. Hein. Il n'y en a rien à foutre de ça. C'est un ingénieur un peu buté qui dit regardez les chiffres, regardez les faits, ça va s'effondrer, on est foutu, donc préparons-nous en fait à vivre ça. Bon. Mais bon, voilà, ça percole un peu partout, donc faut le prendre comme un phénomène social aussi, arriver à comprendre pourquoi les gens se rapprochent de ce type de discours-là. Et puis, par ailleurs, il est aussi tout à fait possible que ça s'arrête. C'est-à-dire que, comme c'est un peu un phénomène de marché éditorial, qu'en fait, bon, bah, il y a eu la vague, et puis les gens vont se mettre à stresser pour d'autres trucs. Enfin, ils sont déjà en train de stresser pour d'autres trucs, et ils ont raison. Donc on a raison de stresser. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait du stress, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dedans ? Faut l'investir dans quelque chose, cette angoisse. Donc à la limite, moi je dirais aux gens qui sont saisis par ce que raconte Pablo Servigne ou d'autres, essayez de trouver un débouché politique à votre angoisse.
Plutôt que de jouer à se faire peur.
Bah, plutôt que suivre la pente spontanée de la collapsologie, qui est quand même un certain repli, quoi. Alors le repli, pour les gens qui ont du patrimoine immobilier, c'est facile. Pour les gens qui vivent au niveau des revenus d'insertion, des minima sociaux, c'est juste une absurdité. Enfin, c'est même franchement insultant en fait. Oui. C'est vraiment l'écologie des riches sous une forme absolument caricaturale, quoi.
Et même si le sentiment d'urgence est parfaitement fondé.
Bien évidemment, ça c'est ce que les gens qui aiment la collapsologie me répondent tout le temps. Mais oui, mais si tu dis ça, tu relativises la gravité de la catastrophe. Pas du tout. J'aime bien dire que la collapsologie, c'est un peu scénario. Vous voyez, on est dans une pièce où se rencontrent depuis 40 ans des climatologues, des historiens, des sociologues, des économistes, tout un tas de gens, et des militants qui disent c'est très grave ce qui se passe, réunissons-nous pour essayer de comprendre pourquoi c'est si grave et ce qu'on peut faire. Donc ils réfléchissent pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est difficile. Et là, un mec arrive en défonçant la porte et dit « Les gars, c'est super grave, il se passe un truc !»«
Ah, tout le monde va périr !»«
Encore vous ?»«
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra !»
Donc là, on a juste envie de dire « Ouais, en fait, c'est ce qu'on disait depuis le début, on est tout aussi inquiets que toi !»«
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux !»
Asseyez-vous et regardez ce que je vous apportais.
Mais c'est pas parce que t'arrives avec une pancarte c'est la fin du monde, comme dans Tintin, la clochette, ouais, et la barbe blanche, que t'es plus crédible. Donc effectivement, comme il y a une accumulation des mécanismes qui font qu'on passe outre la gravité de la crise, je comprends que sur le tard, vraiment, les gens n'en peuvent plus et disent en fait faut changer de braquet. Il faut faire une critique dévastatrice, sans concession, dramatisante, etc. Je comprends la remarque. On voit que le prix Nobel de l'économie a été décerné à quelqu'un qui fait de l'économie du climat pour nous dire que le bon niveau, le niveau optimal entre l'investissement et la crise, c'est un réchauffement de 4 degrés. Je comprends que quand on voit ça, on a vraiment envie de tout péter. Moi aussi, j'ai envie de tout péter quand je vois ça. Malheureusement, je crains que ça n'ait pas les conséquences escomptées. Il se pourrait même que ça ait des conséquences graves, parce qu'il existe des milieux collapsologues d'extrême droite, quoi. C'est-à-dire, la solution la plus simple, c'est on boucle tout, on laisse plus rentrer personne. Et
entre nous, on va bien s'arranger.
J'allais dire les femmes et les enfants d'abord, mais mes femmes et mes enfants d'abord, quoi. Enfin, l'entre-soi, quoi. Là, on est vachement loin de l'écologie dont on parlait tout à l'heure, avec d'autres types de collectifs. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète dans la collapsologie, même si, voilà, il faut le prendre en compte comme phénomène social. Oh, you survivalists, with your funny little shopping lists. Oh, believe me, I get the gist of your point of view. You think the rest of us are just zombies with brains full of pus. Well, this pus that wants to make a fuss and sing a song to you. Shopping list with the remaining time that exists. I'll sing a song to you.
Abondance et ou liberté, pourrait presque dire, pour détourner le titre du livre de Pierre Charbonnier. Pendant que les phénomènes climatiques s'accélèrent, que l'on fonce de plus en plus vite vers le point de non-retour et que de plus en plus d'individus s'agitent au risque de tourner en rond, on continue notre dernière heure à essayer de ralentir et de réfléchir avec le philosophe. Je vous le disais hier, à la date du 22 août, nous avons officiellement passé le jour du dépassement. Nous avons épuisé les ressources naturelles que les écosystèmes sont capables de produire en une année. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça? On se frappe la tête contre les murs, on prépare notre grotte pour survivalistes. On profite avant qu'il ne soit trop tard. Avouez que c'est assez moyen comme horizon de progrès. Mais l'alternative ne se résume sans doute pas à partager les miettes ou bien tout péter. Il n'y a qu'à voir dans notre histoire proche comment il y a des moments où, face au péril, des hommes et des femmes savent changer la donne radicalement.
Souvent, je travaille pas mal sur la période de l'après-guerre, justement parce que l'analogie historique m'intéresse et... Au moment de voilà, la guerre s'arrête, les Alliés gagnent. Donc on a battu le monstre totalitaire. On a l'Empire soviétique glorieux qui exerce la pression sur l'Europe de l'Ouest, une bonne partie du reste du monde. Donc il faut donner des gages aux travailleurs d'Europe occidentale. Les Américains prêts à payer parce que ça va relancer, y compris leur économie. Un grand plan d'ajustement structurel qui s'appelle le plan Marshall. Et puis c'est dans cet espace idéologique et politique que se loge la sécurité sociale, les choses comme ça, choses auxquelles les gens de gauche sont attachés, mais qui à l'époque n'étaient pas exclusivement une revendication de gauche, parce que les circonstances historiques faisaient que c'était, on pourrait dire, gagnant-gagnant, quoi.
C'était le CNR aussi, c'était les jours heureux.
Les jours heureux.
Aujourd'hui, nous voulons vous rappeler ce que, dans leur dernière réunion, ont décidé les représentants de toutes les organisations de résistance groupées au sein du Conseil national, en vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises. Tous les comités ainsi constitués doivent être placés sous le contrôle du Conseil national de la résistance.
C'était en pleine occupation, on va essayer de construire, poser les bases d'un monde qui rendra cette destruction de tous et de tout impossible à nouveau.
Exactement.
La pression de l'histoire était telle qu'il a fallu quand même quelque chose qui soit commun, construire intellectuellement, humainement, politiquement, un monde habitable pour tous.
Mais par la même occasion, les passions politiques ont été largement éteintes par l'état de bien-être, le welfare state. Mais probablement qu'il le fallait. qu'en fait, la meilleure arme qu'on a pour éliminer les fascistes et les nazis, c'est le bonheur, en fait. C'est l'abondance. Et c'est le pétrole.
Et là, on revient au titre de votre livre, Pierre Charbonnier. Abondance et liberté. Parce que c'est là où vous placez, justement, la bombe à retardement.
En fait, c'est là que l'histoire... C'est le moment où je trouve qu'il s'est passé dans l'histoire un truc... C'est-à-dire que quand vous regardez des graphes de concentration du CO2 dans l'atmosphère, ça pète en 45, en fait.
En 1945.
La courbe, elle avait un petit peu augmenté au 19e. Mais à un moment, l'utilisation du charbon dans les usines de Manchester et de la Ruhr, en fait, à l'échelle d'une planète, c'était pas grand-chose. Après 45, ce que certains historiens appellent la grande accélération, là, la courbe, elle est quasiment verticale.
Et c'est ce que vous mettez dans l'introduction de votre livre, voilà. Justement, le taux de ppm, c'est-à-dire les parties par million, c'est-à-dire l'unité de mesure de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, on est à 415 par là en ce moment.
Par là, ouais.
Et quand vous êtes né, c'était 360,
ouais,
je crois. Alors vous n'êtes pas si vieux non plus.
Non mais voilà, donc ça va très vite et cette accélération, elle date de l'après-guerre. C'est-à-dire, elle date du moment où on est sorti de en fait, la grande guerre de 30 ans, hein, l'explosion du capitalisme impérialiste, industrialiste, classique, débridé. Donc on a discipliné le capital avec des très hauts niveaux de taxation. On a fait un énorme gâteau économique qui s'appelle la croissance, qu'il est beaucoup plus facile à redistribuer qu'un petit gâteau. Hein. Donc on a reconstruit sur une base matérielle qui était à ce moment-là disponible, de la terre, du travail, des ressources. Et puis la Chine émerge, l'Inde émerge, cette idée de la modernisation là se reprend partout sous des formes politiques différentes. Et là l'impasse. C'est-à-dire que c'est ça, avec un déferlement de souffrance humaine inimaginable qui ne va faire que s'accroître, ou... inventer autre chose, mais c'est là vous voyez que l'écologie ça existe plus en fait, c'est foutu, l'écologie c'est un truc dont on pouvait parler quand la question c'était celle des pollutions enfin qui existe toujours, hein. Oui. Celle des souffrances animales qui existe toujours, mais qui sont mises sous une tension mais extraordinaire par ces trucs là qui se font dans des dynamiques géopolitiques générales. Et voilà, donc moi, mon boulot, c'est du coup d'essayer de comprendre comment les gens pensaient au moment de la grande accélération, quel type d'objectifs on se donnait, à quelles conditions, enfin, quelles conditions on posait pour faire la paix. Et l'idée que j'aimerais bien creuser maintenant, c'est comment on fait pour faire la paix d'une manière qui est en fait totalement inverse aux moyens employés entre 45 et 47, quoi, au moment de la pacification. En fait, comment on fait la paix sans cette croissance-là.
Et c'est là où vraiment vous êtes à la croisement de plusieurs disciplines, parce qu'il y a cette réflexion philosophique dont vous plantez le cadre, mais qui a recours justement à tous ces arguments scientifiques, techniques et surtout économiques, avec le primat qui s'est imposé dans les dernières décennies au cours du siècle dernier, c'est le primat absolu de l'économie sur la marche des hommes et la marche du monde.
Alors le primat de l'économie, en fait ce qui s'est imposé, c'est la croyance dans le primat de l'économie. Parce que, en fait, l'économie n'est jamais totalement autonome. Elle prétend l'être, ça c'est la définition de l'utopie libérale, c'est l'idée de dire qu'en fait, on va amoindrir les contrôles étatiques sur la société civile, parce que la société civile parvient à s'autoréguler par les moyens du marché, qui en fait sont plus égalitaires, moins autoritaires, font une beaucoup plus grande place à la diversité des individus, et donc la justice de marché serait supérieure à la justice liée en fait à l'ordre étatique. Et ça, c'est l'utopie libérale. Seulement, cette utopie libérale n'a jamais existé. Il a fallu des États, il a fallu des polices, il a fallu des armées pour créer les grands empires économiques. Et puis aussi, il a fallu, en fait, une extériorité. Des terres que l'on considérait comme n'étant pas déjà occupées.
Donc ça, la colonisation, ça
donc
va.
Ça, c'est la question des marges coloniales, impériales. On a toute cette grande histoire, mais donc l'économie, elle s'auto-glorifie de son autonomie, mais elle ne l'est pas tant que ça à l'égard d'un grand nombre de contraintes et d'opportunités matérielles. Et c'est ça aussi qu'il faut remettre dans le jeu. Mais c'est quand même un truc qu'on a pour certains redécouvert ces dernières semaines ou ces derniers mois. On se rend compte qu'en fait, le capitalisme, c'est un peu comme un bébé. C'est-à-dire, faut vraiment s'occuper de lui énormément. Faut lui mettre des tonnes de béquilles un peu partout pour que ça marche.
Des règles, donc.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme, ça marche s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de grande pandémie, s'il n'y a pas, en fait, des grands accidents où il faut de l'assurance ou des trucs comme ça. En fait, la liste des conditions pour que le capitalisme réputé pur existe est tellement longue. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est une utopie, ça n'existe jamais. Tout le monde est d'accord pour dire que le capitalisme est par exemple, il y a une quinzaine d'années, le rapport Stern, qui a été un très grand rapport en Angleterre sur la question climatique, qui a été écrit par des gens pas franchement anticapitalistes.
Oui, c'est pas des babacools non plus.
Vraiment pas. Se conclut en disant la crise climatique, c'est le plus grand échec de la logique de marché jamais vu à l'échelle planétaire. Et ça, le problème, c'est que franchement, tous les banquiers sont d'accord pour le dire, hein, mais ils s'en foutent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ouais, bah, y a un échec du marché, mais c'est pas grave, on va faire de l'assurance, on va faire d'autres marchés, etc. Voilà, bon, bah, on sait bien, le capitalisme a aussi pour caractéristique de surmonter ses crises en faisant des opportunités de profit. C'est pour ça qu'il est si malléable, mais vous voyez.
Et à ce propos, vous parliez de malléabilité de l'économie libérale et capitaliste. C'est justement au Groenland qu'on en a vu une manifestation qui était assez saisissante. Avec la fonte des glaces due au réchauffement global, des zones entières sont maintenant accessibles, qui ne l'étaient pas auparavant parce que recouvertes par la banquise, tout simplement, et que ces zones maintenant intéressent au plus haut point des investisseurs australiens, encore une fois, qui veulent miner, c'est-à-dire raser toute une montagne et tout un paysage pour pouvoir en extraire des terres rares, pour pouvoir justement faire des moteurs qui consisteront de contribuer au réchauffement climatique qui a rendu possible cette exploitation minière.
The company's flagship project is Kvanefjeld, a giant multi-element deposit located near the southwest tip of Greenland.
Kvanefjeld offers a cost competitive.
Selon la compagnie australienne qui prospecte dans la région, il pourrait être exploité pendant les 300 prochaines années.
Be generating 500 million US a year for decades.
Wow.
Beaucoup ici, toute cette richesse, c'est à la fois une bénédiction, mais aussi une malédiction.
Oui. Non, mais c'est pour ça que j'insiste sur cette idée que l'écologie, c'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'effectivement, une partie des moyens qu'on va devoir employer pour amortir le choc ne sont pas sans conséquences écologiques eux-mêmes, hein. Le système éolien, solaire, dit renouvelable, bon, bah, il a une facture écologique aussi. Il a en terminologie technique, parfois, on dit un sac à dos écologique, c'est-à-dire... pour une batterie qui pèse 10 kilos, vous avez derrière, je sais pas combien de tonnes d'extraction minière brute, quoi. Donc le sac à dos écologique, il est gigantesque. Alors après, c'est une pesée, hein. C'est une pesée. Est-ce que ça, c'est pas quand même préférable au gros choc climatique par émission de gaz à effet de serre, quand les deux branches de l'alternative sont mauvaises, ouais, et qu'il faut choisir la moins mauvaise, en fait? Et ça, typiquement, quand on fait de la philosophie, c'est des questions qu'on n'aime pas se poser parce que, si vous voulez, le schéma conceptuel type pour un philosophe, c'est on a une alternative et dans les deux branches, on a une bonne et une mauvaise et on essaie de forger des idéalités positives.
Une belle synthèse à la fin.
Voilà. Et je crois que malheureusement, ça ne sera pas possible. Et je veux pas non plus plaider pour le moindre de mots. J'espère qu'il y aura du bonheur, de l'accomplissement personnel et collectif encore dans 50 ou 100 ans. Mais enfin, il sera quand même très probablement amoindri pour la raison que vous indiquez, c'est-à-dire que les moyens pour éviter la catastrophe ressemblent à une espèce de moindre catastrophe ou quelque chose comme ça.
Vert. Même à la verre, tu cales du vide, l'humain persévère à faire des trucs stupides, cupides pour des billets verts, suicidaires. Et l'humanité qui se fait à l'idée de la brutalité. Verdict, tout est foutu, merci. Voulez-vous du vernis par-dessus la peinture, même si celle-ci n'est pas garantie ni certifiée. Du saut de la vérité, versons de la couleur sur les coupes budgétaires. Il reste plus qu'à peindre en vert les réacteurs nucléaires. Allez, verrouillons les boulons et rentrons dans l'air où l'on se débrouille pour avoir l'air cool avant que ce verre rouille mes verres ou fuir, bah les couilles, ils verront pas trop la différence quand ils vivront derrière des vérandas. Ah, Defcon 4, allez, allons-y sans vergogne, la guerre comme exutoire pendant que le soleil vergogne. Vérifiez vos vertus, vous qui vous vantez d'ouverture, vous êtes 15 milliards car vous en valez deux, vous êtes avertis. Rares sont ceux qui voudraient le voir, vraiment paraît-il. Tant pis, à moi de boire le verre à moitié vide de verdict. Ils ont tous l'air blême, merde, c'est laser, mais il est vrai la vermine. Tout le monde est sous verveine, faut faire vite, j'ai le vertige quand je les vois être fiers de ces merdeux de la COP21. Ils sont tous véreux, qui survivra verra vraiment qui étaient les rêveurs, les vendeurs d'Areva ou bien les enfants de la terreur.
Je reviens du monde d'avant.
Conclure, Pierre Charbonnier, je veux revenir, c'est un article que vous avez fait récemment où vous expliquiez que l'écologie, ça ne doit pas être le lieu du consensus et que la castagne, c'est très bien. Et que si on veut effectivement une justice sociale et environnementale, si on veut effectivement ces deux luttes comme étant également et conjointement indispensables, si on veut qu'il y ait un avenir ou un sursis pour l'humanité, il faut prendre goût à la castagne.
Oui, alors j'avais écrit ça dans un mouvement d'humeur suite à un...
Il y avait un édito qui était fait, tous ensemble, pour sauver les petits oiseaux et les insectes.
C'était Nicolas Hulot et sans principe. Mais ça n'était que un effet d'accumulation avec pas mal de propos de ce type-là, un petit peu lénifiant.
Tous ensemble.
On va tous se donner la main et on va en fait tous se reconnaître miraculeusement un intérêt commun à s'engager dans la lutte climatique. En fait, qui pensent que l'écologie n'est pas un problème politique, parce qu'ils, si on explique bien aux gens, ils vont se rendre compte qu'ils ont intérêt. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. La formation sociale de l'intérêt et d'une dynamique de contestation, de contre-mouvement, c'est pas juste. Expliquons aux gens que le réchauffement climatique, c'est merdique pour tout le monde. D'abord parce que c'est pas merdique pour tout le monde de la même manière.
On l'a vu dans les reportages, par exemple, il y en a qui en profitent toujours.
Voilà, et que l'existence des gens est prise dans des dépendances nombreuses et souvent immédiates, du fait même de l'économie, ce qui ne permet pas de s'orienter selon cette boussole-là. Donc ne faisons pas comme si l'impératif climatique rassemblait tout le monde, parce qu'en fait, il divise. Il divise de la même manière que le Covid a divisé, vous voyez. Le Covid a suivi les nervures des inégalités sociales comme un liquide de révélation qu'on vous injecte avant de vous faire un IRM pour faire voir la structure intérieure du corps. Ça fait tout le temps ça, les crises, en fait. Ouais. L'écologie qui rassemble, avant qu'elle rassemble, il faut qu'elle désassemble, il faut qu'on voit la ligne de partage, la bonne ligne de partage. Il ne faut pas qu'on obscurcisse toute ligne de partage sociale. Il faut qu'on en fasse ressortir une.
Et ça ressemble à quoi, alors?
Vous voyez, ça fait un petit moment qu'on discute, on en a fait ressortir quelques-unes. Elles sont pas toutes convergentes, c'est ça le problème aussi. L'hypothèse de la formation, on peut dire, d'un contre-mouvement où se rejoignent différents groupes sociaux est une hypothèse qui, même si on peut la relativiser, est quand même intéressante à développer, à mon avis. Mais on n'y est pas tout à fait. En tout cas, l'écologie post-politique, je n'y crois pas.
Abondance et liberté de Pierre Charbonnier, paru aux éditions La Découverte. C'était Je reviens du monde d'avant et bien content d'être enfin de retour au présent et surtout de retour en direct dans les studios de la Maison de la Radio. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ce voyage avec Anne Vigna, Gabriel Uchida au Brésil, Cécile Assanoumabris et Miguel Quintana au Japon, Malik Papis au Groenland et Martine en Australie. Merci à Stéphane Boja, à la technique aujourd'hui et bravo à toute l'équipe pour la réalisation. Hélène Biziot, Clément Baudet, Martine Abba et bien sûr Clément Nouguier qui nous a concocté ce générique avec les musiciens de Coppelius. C'est maximum respect surtout à Tom Waits, Way Down in the Hole. Vous pourrez bien sûr retrouver tous les podcasts de la série ainsi que les vidéos sur franceinter.fr. Et j'en profite pour vous signaler aussi les nouveaux rendez-vous. Vous pouvez retrouver mes acolytes Charlotte Perry et ses vies françaises dans la matinale des samedis et Antoine Chao bientôt demain les vendredi à 21h40. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver bientôt à 14h dans La Terre au Carré de Mathieu Vidard qui reprend dès demain.